Chapitre 8.
Il l'avait fait, enfin. La pièce dans laquelle il se trouvait était toute en longueur et doucement éclairée. Le volume de l'écran tel avait été réduit et n'était plus qu'un faible murmure. La richesse du tapis bleu foncé donnait l'impression de marcher sur du velours. À l'autre bout de la pièce, O'Brien était assis à table sous une lampe à abat-jour vert avec une masse de papier de part et d'autre de lui. Il n'avait pas pris la peine de lever le regard quand le domestique avait introduit Julia et Winston. Le cœur de Winston battait si fort qu'il doutait même d'être capable de parler. Il l'avait fait, enfin, c'était tout ce qu'il pouvait penser. Cela avait été vraiment téméraire de venir là, et une pure folie d'arriver ensemble, même s'il était vrai qu'ils étaient venus par des chemins différents, et ne s'étaient rencontrés que devant la porte d'O'Brien. Mais le simple fait de marcher dans un tel endroit était une épreuve pour les nerfs. Ce n'était qu'en de très rares occasions qu'on pouvait voir l'intérieur du domicile d'un membre du cercle intérieur du parti, ou même pénétrer dans le quartier de la ville qu'ils habitaient. Toute l'atmosphère de l'immense bâtiment, la richesse et les vastes dimensions de tout ce qui s'y trouvait, l'inhabituelle odeur de la bonne nourriture et du bon tabac, les ascenseurs silencieux et incroyablement rapides qui montaient et descendaient, les domestiques en gilet blanc qui se hâtaient çà et là, tout était intimidant. Même s'il avait un bon prétexte pour se trouver là, il craignait à chaque pas de voir apparaître soudainement, à chaque coin, un garde en uniforme noir, mystérieusement informé, qui lui demanderait ses papiers et lui ordonnerait de sortir. Le domestique d'O'Brien, toutefois, les avait laissés entrer tous deux sans objection. C'était un petit homme aux cheveux noirs, dans un gilet blanc, avec un visage en losange, totalement dénué d'expression, qui aurait pu être celui d'un Chinois. Le passage à travers lequel il les conduisit, avec son papier peint crème et ses lambris blancs, était d'une propreté exquise. Un tapis moelleux couvrait le sol. Cela aussi était intimidant. Winston n'arrivait pas à se souvenir d'un couloir dont les murs n'étaient pas crasseux à force du contact des corps humains. O'Brien avait pris un papier dans les mains et semblait l'étudier avec attention. Son gros visage, penché mais laissant voir la ligne de son nez, paraissait à la fois formidable et intelligent. Pendant peut-être 30 secondes, il resta assis sans bouger. Puis il attira le dictascript à lui et lâcha un message dans le jargon hybride des ministères.
Article 1,5,7 approuvé entièrement, stop. Suggestion contenue, article 6, double plus ridicule, frise, crime de pensée, annulé, stop. Arrêté construction, attente plus complète, estimation coût machine, stop. Fin message.
Il se leva délibérément de sa chaise et se dirigea vers eux en marchant sans bruit sur le tapis. Un peu de son air officiel semblait l'avoir quitté, en même temps que les mots en 9 langues, mais son expression était plus sombre qu'à l'accoutumée, comme s'il était mécontent d'être dérangé. La terreur que ressentait Winston fut soudain traversée par un sentiment de gêne ordinaire. Il se disait qu'il avait peut-être, tout simplement, fait une erreur stupide. Car quelle preuve avait-il, en réalité, qu'O'Brien fût une sorte de conspirateur politique? Rien d'autre qu'un éclat dans le regard et une simple remarque équivoque. À part cela, rien que ses secrètes imaginations, fondées sur un rêve. Il ne pouvait même pas se rabattre sur le prétexte qu'il était venu emprunter le dictionnaire, car dans ce cas, la présence de Julia aurait été impossible à expliquer. Tandis qu'O'Brien passait devant l'écran tel, une pensée sembla le frapper. Il s'arrêta, se tourna et pressa un bouton sur le mur. Il y eut un claquement sec. La voix s'était arrêtée. Julia émit un petit bruit, une sorte de cri de surprise. Même dans sa panique, Winston était trop surpris pour pouvoir tenir sa langue.
« Vous pouvez l'éteindre, »
dit-il.
« Oui, nous pouvons l'éteindre. Nous avons ce privilège, »
dit O'Brien. Il était maintenant en face d'eux. Sa silhouette solide les dominait tous deux et l'expression de son visage était toujours indéchiffrable. Il attendait, l'air assez sévère, que Winston se mette à parler. Mais à propos de quoi ? Même maintenant, il était tout à fait concevable qu'il ne soit qu'un homme occupé, se demandant pourquoi il avait été interrompu. Personne ne parlait. Après l'extinction de l'écrantel, la pièce semblait mortellement silencieuse. Les secondes passaient, monstrueuses. Avec difficulté, Winston continuait à fixer O'Brien. Alors soudain, le visage maussade laissa apparaître ce qui pouvait être le commencement d'un sourire. De son geste caractéristique, O'Brien remit en place ses lunettes sur son nez.
« Le dirai-je ou le direz-vous »
dit-il.
« Je vais le dire. »
répondit rapidement Winston.
« Cette chose est-elle vraiment coupée ?»« Oui, tout est coupé, nous sommes seuls. Nous sommes venus parce que... »
Il fit une pause, réalisant pour la première fois à quel point ses propres motivations étaient floues. Comme il ne savait pas, à vrai dire, quelle sorte d'aide il attendait de la part d'O'Brien, il n'était pas facile de dire pourquoi il était venu. Il poursuivit, conscient que ce qu'il disait devait sembler à la fois faible et prétentieux.
« Nous pensons qu'il doit exister une sorte de conspiration, une sorte d'organisation secrète qui œuvre contre le parti et que vous y êtes impliqué. Nous voulons vous rejoindre et y travailler avec vous. Nous ne croyons pas au principe du Sosang. Nous sommes des criminels de la pensée. Nous sommes aussi des adultères. Je vous le dis parce que nous voulons nous mettre à votre merci. Si vous voulez que nous nous accusions de n'importe quelle autre façon, nous y sommes prêts. »
Il s'arrêta et regarda par-dessus son épaule, avec la sensation que la porte s'était ouverte. Et en effet, le petit domestique au visage jaune était entré sans frapper. Winston vit qu'il portait un plateau avec une carafe et des verres.
« Martin est l'un des nôtres, »
fit O'Brien, impassible.
« Amenez les verres ici, Martin. Posez-les sur la table ronde. Avons-nous assez de fauteuils ? Alors nous ferions aussi bien de nous asseoir confortablement pour parler. Amenez un fauteuil pour vous, Martin. Ce sont les affaires. Vous pouvez cesser d'être un domestique pour les 10 minutes à venir. »
Le petit homme s'assit, très à l'aise, mais pourtant il avait toujours l'air d'un serviteur qui jouit d'un privilège. Winston le regarda du coin de l'œil. Il comprit que la vie entière de l'homme était un rôle qu'il endossait et qu'il trouvait dangereux d'abandonner sa personnalité d'emprunt, même pour un moment. O'Brien prit la carafe par le col et remplit les verres d'un liquide rouge sombre. Cela éveilla en Winston de vagues souvenirs entrevus longtemps auparavant sur un mur ou une affiche, une grande bouteille faite de lumière électrique qui semblait monter et descendre et qui versait son contenu dans un verre. Vu du dessus, le liquide paraissait presque noir, mais dans la carafe, il brillait comme un rubis. Il avait une odeur aigre-douce. Julia prit son verre et le renifla avec une franche curiosité.
« Cela s'appelle du vin, »
dit O'Brien avec un léger sourire.
« Vous avez certainement déjà lu quelque chose à ce propos dans les livres. » « Je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup dans les cercles extérieurs du parti. »
Son visage redevint solennel et il leva son verre.
« Je pense qu'il serait adapté que nous commencions par porter un toast. À notre chef, à la santé d'Emmanuel Goldstein. »
Winston leva son verre avec une certaine excitation. Le vin, c'était une chose dont il avait entendu parler et dont il avait rêvé. Comme le presse-papier ou les rythmes à demi oubliés de Mr. Charrington, le vin appartenait au passé disparu et romantique, les temps anciens comme il aimait à les appeler, au plus profond de ses pensées. Pour une raison ou pour une autre, il avait toujours pensé que le vin aurait un goût très sucré, comme la confiture de mûre, et un effet enivrant immédiat. En fait, lorsqu'il l'avala, il fut clairement déçu. À la vérité, après des années de gin, il pouvait à peine sentir le goût du vin. Il reposa le verre vide.
« Alors, il existe quelqu'un du nom de Goldstein ?»
dit-il.
« Oui, cette personne existe, et elle est en vie. Ou, je l'ignore. Et la conspiration, l'organisation, est-elle réelle ? Ce n'est pas simplement une invention de la police de la pensée. Non, elle est réelle. La confrérie, comme nous l'appelons. Vous n'en apprendrez jamais beaucoup plus sur la confrérie, si ce n'est qu'elle existe et que vous en faites partie, j'y reviendrai. »
Il regarda sa montre bracelet.
« Il est inhabituel pour les membres du cercle intérieur du parti de désactiver l'écran tel pendant plus d'une demi-heure. Vous n'auriez pas dû arriver ensemble, et vous devez repartir séparément, vous, camarades.
Il inclina la tête vers Julia.
Partirez en premier. Nous avons environ 20 minutes devant nous. Vous le comprendrez, je dois commencer par vous poser certaines questions. D'une façon générale, à quoi êtes-vous prêt ? À tout ce dont nous serons capables.
Dit Winston. O'Brien s'était tourné légèrement sur son fauteuil afin de faire face à Winston. Il ignorait quasiment Julia, semblant prendre pour acquis que Winston pouvait parler pour elle. Pendant un moment, il battit des paupières. Il commença à poser ses questions d'une voix basse, sans expression, comme s'il s'agissait d'une routine, d'une sorte de catéchisme, comme s'il connaissait d'avance la réponse à la plupart des questions.
« Êtes-vous prêt à donner vos vies ?»«
Oui. »«
Êtes-vous prêt à commettre des meurtres ?»«
Oui. »
À commettre des actes de sabotage qui pourraient causer la mort de centaines d'innocents.
Oui.
À trahir votre pays pour des puissances étrangères.
Oui.
Vous êtes prêts à mentir, à faire des faux, du chantage, à corrompre les esprits des enfants, à distribuer des drogues addictives, à encourager la prostitution, à disséminer des maladies vénériennes, à faire tout ce qui pourrait engendrer la démoralisation et affaiblir le pouvoir du parti.
Oui.
Si, par exemple, cela pouvait servir nos intérêts d'une façon ou d'une autre, de projeter de l'acide sulfurique sur le visage d'un enfant, seriez-vous prêt à le faire ?
Oui.
Vous êtes prêts à perdre votre identité et à passer le reste de votre vie à travailler comme serveur ou docker ?
Oui.
Vous êtes prêts à vous suicider, si et quand nous vous l'ordonnons ?
Oui.
Vous êtes prêts, chacun de vous deux, à vous séparer et à ne plus jamais vous revoir ?
Non ! Interrompit Julia. Il sembla à Winston qu'un long moment s'était écoulé avant qu'il ne réponde. Pendant un moment, il pensa qu'il avait même été privé de la parole. Sa langue s'agita sans produire aucun son, et sa bouche s'ouvrit pour prononcer un mot puis un autre, encore et encore, jusqu'à ce qu'il l'ait prononcé, il ne savait pas lequel il allait utiliser.
« Non, »
dit-il enfin.
« Vous avez bien fait de me le dire, »
dit O'Brien.
« Il est nécessaire que nous sachions tout. »
Il se tourna vers Julia et ajouta, d'une voix sensiblement plus expressive,
« Comprenez-vous que même s'il survit, il peut devenir une personne différente. Nous serons peut-être obligés de lui donner une nouvelle identité. Son visage, ses gestes, la forme de ses mains, la couleur de ses cheveux, même sa voix serait alors différente. Et vous-même pourriez devenir une personne différente. Nos chirurgiens peuvent changer les gens à tel point qu'on ne peut plus les reconnaître. Parfois, c'est nécessaire. » Parfois, nous amputons même d'un membre.
Winston ne put s'empêcher de lancer un nouveau coup d'œil au visage oriental de Martin. Il ne voyait aucune cicatrice. Julia était devenue un peu plus pâle, si bien que ses taches de rousseur se voyaient, mais elle continuait à fixer O'Brien courageusement. Elle murmura quelque chose qui pouvait être un assentiment.
Bien, donc c'est réglé.
Il y avait un coffret à cigarettes en argent sur la table. D'un air absent, O'Brien le poussa vers les autres, prit lui-même une cigarette, puis se leva et commença à arpenter la pièce, comme si cela l'aidait à penser. C'était de très bonnes cigarettes, très épaisses et bien remplies, avec une douceur inhabituelle dans le papier. O'Brien regarda à nouveau sa montre bracelet.
« Vous feriez mieux de retourner à l'office, Martin, »
dit-il.
« Je rallumerai dans un quart d'heure. Regardez bien les visages de ses camarades avant de partir. » Vous les reverrez prochainement, moi peut-être pas. »
Exactement comme il l'avait fait à la porte d'entrée, les yeux noirs du petit homme parcoururent leur visage. Il n'y avait rien d'amical dans ses manières. Il mémorisait leur apparence, mais il ne ressentait aucun intérêt pour eux, ou ne semblait en ressentir aucun. Il vint à l'esprit de Winston qu'un visage synthétique était peut-être incapable de changer d'expression. Sans un mot et sans le moindre signe de salutation, Martin sortit, fermant silencieusement la porte derrière lui. O'Brien se promenait dans la pièce, une main dans la poche de son bleu de travail, l'autre tenant sa cigarette.
« Vous comprenez ? »
dit-il.
Que vous aurez à combattre dans l'obscurité. Vous serez toujours dans l'obscurité. Vous recevrez des ordres et vous y obéirez sans savoir pourquoi. Plus tard, je vous enverrai un livre qui vous révélera la vraie nature de la société dans laquelle nous vivons et la stratégie que nous utiliserons pour la détruire. Quand vous aurez lu le livre, vous serez des membres à part entière de la confrérie. Mais entre les objectifs généraux pour lesquels nous combattons et les tâches immédiates du moment, vous ne saurez rien. Je vous dis que la confrérie existe, mais je ne peux pas vous dire si elle compte 100 membres ou 10 millions. D'après votre expérience personnelle, vous ne pourrez jamais affirmer qu'elle en compte ne serait-ce qu'une douzaine. Vous aurez 3 ou 4 contacts qui se renouvelleront de temps en temps au fur et à mesure de leur disparition. Comme ceci était votre premier contact, il sera préservé. Quand vous recevrez des ordres, ils viendront de moi. Si nous estimons nécessaire de communiquer avec vous, ce sera par l'intermédiaire de Martin. Quand finalement vous serez pris, vous ferez des aveux, c'est inévitable. Mais vous aurez très peu à avouer, à part vos propres actions. Vous ne serez pas en mesure de trahir plus d'une poignée de personnes sans importance. Probablement, vous ne me trahirez même pas. À ce moment-là, je serai peut-être mort, ou je serai devenu une personne différente, avec un visage différent.
Il continuait à aller et venir sur le tapis moelleux. Malgré sa corpulence, il y avait une grâce remarquable dans ses mouvements. Elle s'exprimait même dans le geste qu'il faisait quand il plongeait une main dans sa poche ou manipulait une cigarette. Plus encore que de force, il donnait une impression de confiance et d'intelligence mêlée d'ironie. Quelle que soit sa sincérité, il n'avait rien du fanatique obstiné. Quand il parlait de meurtre, de suicide, de maladies vénériennes, d'amputations et de visages modifiés, c'était avec un air de légère raillerie.
« C'est inévitable !»
semblait dire sa voix.
« C'est ce que nous devons faire sans flancher. Mais ce n'est pas ce que nous ferons quand la vie vaudra à nouveau la peine d'être vécue. »
Une vague d'admiration, presque de vénération à l'égard d'O'Brien, déferla en Winston. Pour le moment, il avait oublié la silhouette indistincte de Goldstein. Quand vous regardiez les épaules puissantes et le visage taillé au couteau d'O'Brien, si laid et pourtant si civilisé, il était impossible de croire qu'il pouvait être vaincu. Il n'y avait aucun stratagème avec lequel il ne pût rivaliser, aucun danger qu'il ne pût prévoir. Même Julia semblait être impressionnée. Elle avait laissé tomber sa cigarette et écoutait attentivement. O'Brien poursuivit.
Vous avez sans doute entendu des rumeurs à propos de la confrérie. Sans aucun doute, vous vous en êtes forgé une image personnelle. Vous avez imaginé, probablement, un immense monde souterrain de conspirateurs se rencontrant secrètement dans des caves, gribouillant des messages sur les murs, se reconnaissant les uns les autres par des mots de passe ou par des gestes particuliers de la main. Mais rien de tout cela n'existe. Les membres de la confrérie n'ont aucun moyen de se reconnaître entre eux. Et il est impossible pour un membre, quel qu'il soit, de connaître l'identité de plus d'une poignée d'autres. Goldstein lui-même, s'il tombait entre les mains de la police de la pensée, ne pourrait donner une liste complète de tous les membres, ou même une information qui pourrait mener à une telle liste, car une telle liste n'existe pas. La confrérie ne peut pas être anéantie, parce qu'il n'y a aucune organisation au sens ordinaire. Aucun lien n'est indestructible, seule une idée peut l'être. Vous n'aurez jamais rien pour vous soutenir, sinon cette idée. Vous n'aurez ni camaraderie, ni encouragement. Quand finalement vous serez pris, vous ne recevrez pas d'aide. Nous n'aidons jamais nos membres. Au maximum, quand il est absolument nécessaire de réduire quelqu'un au silence, nous sommes capables à l'occasion d'introduire une lame de rasoir dans la cellule d'un prisonnier. Vous devrez vous habituer à vivre sans voir aucun résultat et sans espoir. Vous travaillerez un certain temps, vous serez pris, vous ferez des aveux et puis vous mourrez. Ce sont là les seuls résultats que vous verrez jamais. Il n'y a aucun espoir pour que vous puissiez constater le moindre changement durant toute votre vie. Nous sommes les morts. Notre vraie vie est dans le futur. Nous y participerons, sous la forme de poignées de poussière et de débris d'os. Mais dans quelle mesure ce futur est éloigné, et à quelle distance se trouve ce futur, il est impossible de le savoir. Peut-être 1000 ans. Pour l'instant, rien n'est possible, à part étendre petit à petit le domaine du bon sens. Nous ne pouvons pas agir collectivement. Nous pouvons seulement répandre ce que nous savons d'individu à individu, génération après génération. Face à la police de la pensée, il n'y a pas d'autre moyen.
Il s'arrêta et regarda une troisième fois sa montre de poignet.
« Il est presque temps pour toi de partir, camarade, »
dit-il à Julia.
« Attendez, la carafe est encore à moitié pleine. »
Il remplit les verres et leva le sien en le tenant par le pied.
« À quoi boirons-nous cette fois ? »
dit-il, toujours avec la même légère intonation ironique.
« À la confusion de la police de la pensée, à la mort de Big Brother, à l'humanité, au futur, au passé, »
dit Winston.
« Le passé est plus important, »
reconnut O'Brien gravement. Ils vidèrent leurs verres, et un moment après, Julia se leva pour partir. O'Brien prit une petite boîte en haut d'un meuble et en sortit un petit comprimé blanc et plat qu'il lui dit de placer sur la langue. Il était important, dit-il, de ne pas sortir avec une haleine de vin. Les liftiers étaient très observateurs. Dès que la porte se fut refermée sur elle, il sembla avoir oublié son existence. Il fit encore un ou deux pas, puis s'arrêta.
« Il y a des détails à régler, »
dit-il.
« Je suppose que vous avez une cachette d'une nature ou d'une autre. »
Winston lui parla de la chambre au-dessus du magasin de Mr. Charrington.
« Cela ira pour le moment. Plus tard, nous arrangerons quelque chose d'autre pour vous. Il est important de changer de cachette fréquemment. Entre-temps, je vais vous envoyer un exemplaire du livre. »
Même O'Brien, remarqua Winston, semblait prononcer ce mot comme s'il était écrit en italique.
« Le livre de Goldstein, vous comprenez, dès que possible. Cela me prendra peut-être quelques jours avant que je puisse m'en procurer un. Il n'en existe pas beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer. La police de la pensée les traque et les détruit presque aussi vite que nous les produisons. Cela ne fait pas beaucoup de différence. Le livre est indestructible. Si la dernière copie était perdue, nous pourrions le reproduire pratiquement au mot près. » « Est-ce que vous emmenez une serviette au travail ?»
ajouta-t-il.
« En général, oui. À quoi ressemble-t-elle ? Noire, très râpée, avec de lanière. Noire, de lanière, très râpée. Bien. Un jour, dans un futur très proche, je ne peux pas vous donner de date, l'un des messages que vous recevrez pour votre travail du matin contiendra une coquille, et vous devrez demander une rectification. » Le jour suivant, vous vous rendrez au travail sans votre serviette. À un moment de la journée, dans la rue, un homme vous touchera le bras et vous dira « Vous avez fait tomber votre serviette ». Celle qu'il vous donnera contiendra une copie du livre de Goldstein. Vous le rendrez dans les 15 jours qui suivront.
Ils restèrent un moment silencieux.
« Il reste quelques minutes avant que vous partiez, »
dit O'Brien.
« Nous nous retrouverons si nous nous rencontrons à nouveau. »
Winston leva les yeux vers lui.
« Là où il n'y a pas de ténèbres, »
dit-il, hésitant. O'Brien acquiesça, sans montrer de signe de surprise.
« Là où il n'y a pas de ténèbres, »
dit-il, comme s'il avait compris l'allusion.
« Et en attendant, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez savoir avant de partir ? Un message, une question ? »
Winston réfléchit. Il n'avait pas d'autres questions à poser, et il ressentait encore moins l'envie de proférer quelques pompeuses généralités. Au lieu de penser à quelque chose en lien direct avec O'Brien ou la confrérie, il lui vint à l'esprit une sorte d'image composite de la chambre sombre où sa mère avait passé ses derniers jours, de la petite chambre au-dessus du magasin de Mr. Charrington, du presse-papier de verre et de la gravure sur acier dans son cadre en palissandre. Presque au hasard, il dit «
« Vous est-il déjà arrivé d'entendre une vieille chanson qui commence comme ceci ?« Orangé et piment, disent les cloches de Saint-Clément. »
À nouveau, O'Brien hocha la tête. Avec une sorte de courtoisie grave, il compléta la strophe.
« Oranger, piment, disent les cloches de Saint-Clément. Tu me dois 3 florins, disent les cloches de Saint-Martin. Quand donc serai-je payé, disent les cloches d'Old Bailey. Quand je serai riche, disent les cloches de Shoreditch. »
« Vous connaissez la dernière ligne ?»
dit Winston.
« Oui, je connais la dernière ligne. Et maintenant, je le crains, il est temps pour vous de partir. Mais attendez, il vaut mieux que vous preniez un de ces comprimés. »
Tandis que Winston se levait, O'Brien lui tendit la main. Sa poigne puissante écrasa les os de Winston. Une fois à la porte, Winston regarda en arrière, mais O'Brien semblait déjà occupé à le chasser de son esprit. Il attendait, la main sur le bouton qui commandait les crantelles. Derrière lui, Winston pouvait voir la table avec ses lampes à abat-jour vert et le dictascript et les corbeilles à dépêche remplies à ras-bord de papier. L'incident était clos. Dans les 30 secondes, pensa-t-il, O'Brien aurait repris, après cette interruption, le cours du travail important qu'il réalisait pour le parti.